Bonjour à vous tous à travers le monde, à nos amis, à nos frères et sœurs à travers le monde. Que la grâce et la paix de Dieu et du Christ soient avec vous. Nous célébrons la fête des tabernacles 2009. Cette fête représente l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. Dieu nous a fait un cadeau merveilleux, ces jours saints, ces fêtes. Très peu de gens sur la face de la terre comprennent le plan de Dieu, son plan de salut. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas les fêtes annuelles de Dieu. La fête des tabernacles a beaucoup de signification. Il y a quelques jours à peine, nous avons célébré la fête des trompettes. Le premier jour du septième mois, selon le calendrier de Dieu, c'était la fête des trompettes. Et la fête des trompettes décrit l'année qui va conduire à la dernière trompette, c'est-à-dire le retour de Christ. La septième trompette est l'annonce de cette bonne nouvelle du retour du Christ. Allons à Apocalypse 11, s'il vous plaît, et nous allons lire à partir du verset 15. « Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est Apocalypse 11, verset 15. Voilà une très bonne nouvelle. Nous attendons ce jour avec joie. À la septième trompette, il se passera beaucoup de choses. La résurrection des saints, de ceux qui ont appartenu à Dieu au cours de l'histoire, vont être ramenés à la vie. Et ceux qui seront encore en vie, les serviteurs de Dieu qui seront encore en vie à ce moment-là, seront transformés en un instant. Nous voyons ces choses-là dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. À la septième trompette, ce sera la résurrection et la transformation des serviteurs de Dieu. Allons à Apocalypse 19 maintenant, Apocalypse 19, et lisons à partir du verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alors, après la résurrection des saints et après la transformation de ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, il y aura le repas des noces de l'agneau. Verset 8, « Et il lui a été donné à l'Église de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Alors, nous attendons ce moment de la résurrection et nous attendons ce souper des noces avec grande joie. Que s'est-il passé le dixième jour du septième mois selon le calendrier de Dieu? Nous venons de célébrer cette fête, c'est le jour des expiations et nous savons que ça représente le jour où Satan et ses démons seront éliminés, seront empêchés de nuire. Nous allons en reparler un peu plus loin. Au 15e jour de ce septième mois, aujourd'hui, c'est le commencement de la fête des tabernacles et ça représente le règne millénaire du Christ et de ses saints sur la terre. La fête des tabernacles nous donne la vision du monde à venir. Ça représente le royaume de Dieu établi sur la terre. Cette fête, on l'appelle aussi une fête de pèlerinage où, dans l'ancienne nation d'Israël, les hommes étaient commandés de se rendre au lieu où Dieu avait placé son nom. Allons à Exode, s'il vous plaît, le chapitre 23. Exode, chapitre 23. Nous allons lire à partir du verset 14. Exode 23 et le verset 14. « Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. » Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide, c'est-à-dire les mains vides, devant ma face. Dieu avait commandé qu'il y aurait des offrandes de prélever le jour de ses fêtes. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices, c'est la fête de la Pentecôte, de ton travail, de ce que tu auras semé dans tes champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Alors, Dieu a commandé ces trois fêtes de pèlerinage qu'on appelle. On demandait aux hommes de se présenter devant Dieu à ce moment-là, à l'endroit où il avait placé son nom. Notez que la fête de la Pentecôte est appelée la fête de la récolte ou la fête des prémices. Et nous l'avons expliqué au jour de la Pentecôte. Dieu appelle d'abord un tout petit troupeau à cette époque. Et ceux-là qui seront fidèles de ceux qui sont appelés maintenant feront partie de cette première petite récolte. Et on voit ici dans Exode 23, on voit qu'à la fin de l'année, il y a la fête de la récolte. Ça représente l'appel de tous les êtres humains à connaître le vrai Dieu, appelé au salut après le retour de Christ. Ça représente cette grande récolte d'être appelé au salut après le retour de Christ. Allons à Exode 19 maintenant, Exode 19, et voyons le but de Dieu pour la nation d'Israël. La nation d'Israël était au pied du mont Sinaï à ce moment-là, après être sortie d'Égypte. Exode chapitre 19, et nous allons commencer à lire au verset 5. Moïse était allé rencontrer Dieu sur la montagne et Dieu lui avait dit, « Maintenant, verset 5, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Quel appel merveilleux la nation d'Israël avait reçu. S'ils avaient obéi à Dieu, ils auraient été un trésor spécial pour lui. Malheureusement, ils n'ont pas obéi. Verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse devait répéter ces paroles au peuple. « Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Quel appel grandiose! Israël n'a pas réussi. Israël a échoué face à cet appel. Mais nous sommes appelés maintenant en tant que nation spirituelle pour accomplir cette mission. Dieu nous a appelés maintenant en tant que rois et sacrificateurs pour devenir des rois et des sacrificateurs. Comme on voit dans Apocalypse 5 et le verset 10. Apocalypse 5 et le verset 10. Regardez ce qui est dit ici. En parlant du futur, si nous sommes fidèles, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà l'appel que Dieu vous a adressé à vous et à moi. Et c'est ce que nous visualisons à cette fête des tabernacles. C'est un appel extraordinaire. Le titre du sermon aujourd'hui, c'est « Notre appel en tant que roi, sacrificateur et juge ». Tout d'abord, essayons de visualiser le royaume qui vient. Regardons l'avenir, regardons le futur. Les sermons que vous allez entendre au cours de cette fête vont vous aider à comprendre davantage ce que sera le royaume de Dieu sur la terre et à comprendre la voie selon laquelle nous devons déjà vivre maintenant et que nous allons enseigner dans le monde à venir. Il y a un aumônier qui était rattaché au Sénat des États-Unis qui s'appelait Peter Marshall et le 18 avril 1847, il a fait une prière à l'ouverture de la session. Il a dit ceci, « Donne-nous, Dieu, une vision claire afin que nous connaissions sur quelle base fonder notre conduite, sans quoi nous serons exposés à échouer. » En ce qui nous concerne, Dieu nous a révélé son plan merveilleux. Et comment atteindre ce but? Peter Marshall, dans cette prière, a dit, Dieu, donne-nous une vision claire afin que nous sachions sur quelle base fonder notre conduite pour que nous ne soyons pas exposés à tomber. Dieu nous a donné cette vision claire. Il nous faut nous en rappeler, il nous faut l'étudier, l'approfondir, et plus particulièrement au cours de ces jours de la fête des tabernacles. Allons à Matthieu, le chapitre 17, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 17, pour avoir encore cette vision dont je vous parle. Le Christ a amené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne, sur le mont Tabor, et leur a donné une vision extraordinaire, justement, de ce monde qui vient, de ce royaume de Dieu sur la terre. Matthieu 17, verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici trois tentes. » Trois tentes, ou trois tabernacles, si vous voulez. Voici la vision du royaume que Jésus a permis à ses serviteurs d'avoir à ce moment-là. Le Christ venait de leur dire juste auparavant que certains de ses disciples ne mourraient pas sans avoir une vision du monde à venir. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 9 que le Christ dit « Ne parlez à personne de cette vision que je vous donne ». Verset 5 maintenant, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée, disant ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 9, à la fin, le Christ leur a dit, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alors, le Christ ici leur a donné une vision de ce monde à venir et leur a montré la gloire de ce royaume. Et qui ont-ils vu dans cette vision? Moïse et Élie. Alors, le Christ a révélé ici que deux des grands leaders spirituels dans le monde à venir seront Moïse et Élie, qui seront ramenés à la vie à ce moment-là. Ils vont faire partie de la famille royale. Ils seront nos frères. Nous allons être capables de leur parler, de leur poser des questions. Et ce sera une occasion merveilleuse. Plusieurs d'entre vous, vous savez que M. Armstrong a fait un travail comme celui d'Élie. Nous savons cela à cause de ce qui est écrit dans Malachie, au dernier chapitre, Malachie 4 et le verset 6. Malachie devait ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Sinon, Dieu allait détruire la terre. Et M. Armstrong a fait ce travail-là de ramener le cœur des enfants vers leur père et le cœur des pères vers leurs enfants. Et nous continuons ce travail-là et nous enseignons cette voie de vie basée sur l'amour de Dieu et sur la vérité de Dieu pour que les gens aient des familles saines et des bonnes relations familiales. Alors, Jésus ici a montré dans cette vision que Moïse et Élie reviendraient à la vie et occuperaient un poste dans le royaume. Allons maintenant à Apocalypse chapitre 11, où il est question du travail des deux témoins que Dieu suscitera à la toute fin, avant le retour de Christ. Apocalypse 11 et le verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » La plupart des commentaires disent qu'il s'agit là d'un parallèle fait avec Moïse et Élie. Voyez vous-même les similarités de ce que ces deux témoins-là vont faire avec ce que Moïse et Élie ont fait. Verset 5, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, comme Élie a fait durant la royauté du roi Achab, ce roi mauvais qui a régné sur Israël. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel comme Élie, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a changé les eaux du Nil en sang par la puissance de Dieu et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Alors, Dieu dit qu'il y aura à la toute fin deux témoins qui auront des traits caractéristiques semblables à ceux de Moïse et d'Élie. Alors, nous voyons ici deux grands leaders qui seront dans le royaume de Dieu et qui vont régner avec les saints de Dieu. Qui d'autre seront dans ce gouvernement de Dieu à venir? Allons à Hébreux chapitre 11. C'est le chapitre de la foi. Et ça décrit des hommes et des femmes de foi et comment ils ont été fidèles. Et qui voyons-nous dans ce chapitre? Qui est mentionné là? On voit Moïse, bien sûr, au verset 23. On voit Abraham aussi, qui a obéi à Dieu. On le voit au verset 9, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Et nous sommes héritiers de cette promesse-là, et nous vivons, pour ainsi dire, dans des demeures temporaires actuellement. Notre vie présente est temporaire. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient, Abraham, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham avait une vision du royaume à venir. Il savait qu'il y aurait sur la terre une ville dont l'architecte serait le créateur, la nouvelle Jérusalem. Nous le voyons dans la Bible aussi. Dans le livre d'Hébreux, nous voyons la description de plusieurs prophètes. On voit qu'il est question, par exemple, au verset 32 de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David et Samuel, et ainsi de suite. Au verset 21, on voit qu'il est question de Jacob, de Joseph. Alors, ce sera une époque merveilleuse lorsque ces gens-là seront ramenés à la vie et que tous ces leaders chrétiens seront dans le royaume de Dieu. Allons à Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 4, et nous allons voir dans ce passage-là qu'Abraham est appelé héritier du monde, héritier du monde. Abraham symbolisait Dieu le Père. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, comme Dieu a sacrifié plus tard son fils. Et Isaac représentait le Christ. Romains 4, verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Il est héritier du monde entier. C'est ce que Jésus nous dit aussi dans Matthieu 5. Les humbles hériteront de la terre. Qui d'autre sera dans le royaume de Dieu? C'est très important de le savoir, parce que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement organisé. Et nous sommes appelés à faire partie de cette royauté, de la famille royale, en tant que roi, sacrificateur et juge, comme nous allons voir. Allons à Matthieu maintenant, le chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Nous allons commencer au verset 27. Qui sera en charge des 12 tribus d'Israël? C'est précisé ici. Verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Autrement dit, quelle sera notre récompense? Quelle sera notre responsabilité dans le royaume de Dieu? Jésus leur répondit, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez, oui, ils seront des rois et des juges et des sacrificateurs, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et il héritera la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, nous voyons ici que les 12 apôtres seront en charge des 12 tribus d'Israël durant le millénium. Mais qui sera leur patron? Qui sera leur chef, leur leader? Allons à Ézéchiel, au chapitre 37 maintenant. Ézéchiel, chapitre 37. C'est enthousiasmant de visualiser le royaume de Dieu à venir et de voir qui fera partie de cette hiérarchie de la famille royale, des serviteurs en tant que roi, sacrificateur et juge. Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 24. Les Israélites reviendront de la captivité qui s'en vient bientôt, et voyez ce que Dieu dit ici. « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. » À ce moment-là, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Et bien sûr, il dit au verset 11 de ce même chapitre-là, en parlant des ossements de ceux qui sont morts en Israël, et il dit qu'à ce moment-là, la famille d'Israël sera réunie. Il n'y aura plus une division entre la maison de Juda et la maison d'Israël. Alors, David sera roi sur eux. Il sera en charge des 12 tribus d'Israël aussi, sur lesquelles seront également les 12 disciples. Ézéchiel, chapitre 40 maintenant. Ici, on introduit la notion du temple qu'il y aura à Jérusalem à ce moment-là. Sur le mont du temple, on sait ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a eu un premier temple bâti par Salomon et ensuite qui a été détruit. Et les Juifs qui avaient été amenés en exil sont revenus et ont construit un second temple. Par la suite, Hérode a continué la construction de ce temple-là. Et il est possible qu'il y ait bientôt un autre temple sur le mont du temple ou peut-être même un autel simplement pour offrir les sacrifices. Mais après le retour de Christ, il y aura un autre temple à Jérusalem. On peut voir la description de ça dans Ézéchiel chapitre 40 à 48. Alors, Ézéchiel 40, maintenant, nous allons commencer à lire au verset 2. « Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. » Alors, on commence à voir ici les mesures du temple et des installations extérieures au temple. On le voit au verset 28, il est décrit la construction des chambres et les mesures de ces chambres-là, verset 28, 29 et ainsi de suite. C'est enthousiasmant de voir ce qui s'en vient. Dieu donne même les dimensions architecturales du temple qu'il y aura au cours du millénaire à Jérusalem. Au chapitre 48 du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 48, au dernier verset, on trouve quelque chose d'enthousiasmant aussi. Ici, Dieu donne encore certaines mesures concernant le temple. Et regardez ce qui est dit. « Circuit 18 000 cannes. Maintenant, quel sera le nom de la ville à ce moment-là? Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici, Yahweh Shama, ce qui veut dire « Le Messie vivra là ». Ce sera le nom de la ville. Yahweh Shama, la nouvelle Jérusalem, Yerushalayim, ville de paix. Le nom de la ville sera Yahweh Shama. L'Éternel est ici. Lorsque je suis allé à la fête des tabernacles en 1988, notre guide disait « Sham, Sham », et ça voulait dire « là, là ». Alors, Yahweh Shama sera le nom de la ville. Ézéchiel 48 et le verset 35. Aussi, au cours du millénium, nous avons déjà vu certaines positions gouvernementales qui seront attribuées à ce moment-là, mais à quoi ressemblera l'environnement? Alors, je me rappelle que dans un club d'orateurs, il y a quelques années, il y avait certains hommes un jour qui étaient indignés de la détérioration de nos villes et de l'environnement. Quelqu'un avait dit « il n'y aura pas de ville dans le monde à venir ». Bien sûr, il ne veut pas voir des villes comme celles qu'on voit maintenant dans le monde à venir. Il y aura des villes, mais elles seront tout à fait différentes de celles qu'on voit autour de nous maintenant. Alors, Luc 19 et le verset 17. Luc 19, verset 17, c'est la parabole des mines où le Christ dit à ses serviteurs auxquels il a remis des mines comme ça, il leur dit leur récompense. Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Voyez-vous, Dieu va désigner certains des saints ressuscités et ramenés à la vie dans certaines positions d'administration à ce moment-là. Et on voit un peu plus loin, au verset 19, que Dieu donne la direction de 5 villes à un autre. Alors oui, il y aura des villes dans le monde à venir, mais ce sera des cités conçues selon les voies de Dieu et selon l'architecture de Dieu. Et on va retrouver les vraies valeurs. Ça favorisera une vie agréable et paisible et heureuse. Allons à Ésaïe chapitre 8 maintenant. Ésaïe chapitre 8. Nous allons voir encore quelque chose de très intéressant ici. Nous allons commencer à lire au verset 1. L'Éternel me dit, « Prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. » Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Berechia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, « Donne-lui pour nom Maher Shahal Shasbaz. » Qu'est-ce que ça signifie? « Car avant que l'enfant sache dire « mon père, ma mère », on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. » Alors, il y a des événements physiques qui représentent des événements prophétiques. Et lorsque ces choses-là se passent, se produisent, comme ça va se produire, les gens comprennent. L'Éternel me parla encore, verset 5, et me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. » Dieu dit ici, qu'il y a un temps qui vient où l'Assyrie va envahir la Terre Sainte, mais qu'éventuellement, Dieu va apporter la délivrance de cette captivité. Nous allons voir un petit peu plus tard comment cette transition va se faire. Nous avons déjà mentionné la fête des trompettes, nous avons déjà mentionné le jour de la fête des expiations. Et il y a quelque chose qui va se passer, une transition de là jusqu'au 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire au début de la fête. Allons maintenant à Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous avons parlé des grands leaders du royaume et nous avons vu qu'il y aura un temple à Jérusalem et que Yahweh Shammah, c'est-à-dire que ce sera le nom de la ville et que le Christ habitera là. Apocalypse 1 et le verset 6. Apocalypse 1 et le verset 6. C'est Jésus qui révèle. Et voyez ce que l'apôtre Jean écrit ici. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, Jean écrit ici aux sept églises. À l'Asie mineure, qui correspond à la Turquie actuelle, il leur dit, « Voici, il vient des nuées, et tout œil le verra. » Voyez le verset 4 maintenant. « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés, le Christ, de nos péchés par son sang. On doit toujours se rappeler que l'agneau de Dieu a versé son sang pour que nous puissions être purifiés. Je vous encourage à souligner le mot « agneau » dans le livre de l'Apocalypse. C'est lui, l'agneau sacrificiel, qui a donné sa vie pour nous et qui a fait, au verset 6, de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, Dieu nous a appelés à devenir des rois et des sacrificateurs, comme nous avons vu dans Apocalypse 5 et le verset 10. Ce passage-ci constitue une autre annonce de cette grande réalité qui vient. Allons à 1 Pierre chapitre 2 maintenant. 1 Pierre chapitre 2. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la grandeur de votre appel, à quel point c'est important et à quel point c'est significatif, à quel point vous êtes important aux yeux de Dieu dans son plan? 1 Pierre, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante en parlant du Christ, rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, membres de l'Église, appelés de Dieu, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le docteur Meredith a dit souvent que nous sommes à l'entraînement maintenant pour devenir ces rois et ces sacrificateurs. Que ferez-vous? Que devez-vous faire en tant que ces rois en préparation? Vous devez offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est-à-dire qu'il vous faut pratiquer les voies de Dieu maintenant et offrir vous-même vos vies comme façon de vivre selon Dieu. Et regardez le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Pourquoi est-ce que c'est un sacerdoce royal? Parce que c'est une combinaison de prêtrise et de royauté, de sacerdoce et de royauté. Nous serons des rois et des sacrificateurs, des éducateurs. Nous allons faire partie de la famille royale, une nation sainte. Dieu veut que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous soyons différents du monde. Comme c'est écrit dans Lévitique 11, verset 44, Dieu a dit « Soyez saints, car je suis saint ». Dieu veut que nous soyons orientés de cette façon spirituellement et que nous développions son caractère. Ça veut dire qu'on peut avoir du plaisir, qu'on peut avoir de la joie, bien sûr, mais du plaisir qui dure aujourd'hui, demain et toujours, sans qu'il y ait de conséquences négatives. C'est de goûter les bonnes choses de Dieu selon ses voies. Et c'est de retrouver les vraies valeurs de la vie, les voies divines qui mènent à la vie éternelle, au bonheur et à la vraie joie. Il dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, autrefois qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Qui êtes-vous? Vous rappelez-vous votre identité? Savez-vous qui vous êtes? Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes ce sacerdoce royal qui est décrit ici. Voilà le sens de notre appel. Il nous faut mettre l'emphase là-dessus et nous en rappeler au cours de cette merveilleuse fête des tabernacles. Voilà notre appel. Qu'est-ce que des sacrificateurs font, bien sûr? Ils offrent des sacrifices. Nous avons vu qu'il y a une application dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire d'offrir des victimes spirituelles, d'offrir nos vies en vivant selon Dieu, comme c'est marqué dans 2 Pierre 1, verset 5. Allons dans Ésaïe, chapitre 30, maintenant. Ésaïe, chapitre 30. Nous allons voir davantage la nature de nos responsabilités dans le monde à venir. Un sacrificateur enseigne les lois de Dieu. Ésaïe 30, commençant au verset 19. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Bon, oui, le peuple de Sion, verset 19, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Il parle aux gens qui seront encore vivants dans le monde à venir et que nous allons enseigner. Ceux qui t'instruiront ne se cacheront plus, mais tes yeux les verront. Verront ceux qui t'instruisent. Ce sera nos responsabilités dans le monde à venir. Et c'est ce que représente la fête des tabernacles. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Voyez-vous, si vous allez devoir enseigner les voies de Dieu dans le monde à venir, comprenez-vous que de toute évidence, vous devez maintenant apprendre ces voies-là et en vivre totalement, de tout cœur. Le monde à venir aura un nouveau système éducatif, un nouveau système d'éducation. Au cours de cette fête, lisez la brochure sur le merveilleux monde à venir et les autres brochures qui s'y rapportent. Dans cette brochure, le merveilleux monde à venir, comment il sera, qui n'a pas encore été traduit en français, il y a une section qui est intitulée « Enseignant de joie ». Et je cite, « Sous-jacent à tout ce que présente cette brochure, nous devons réaliser que dans le monde à venir, les membres de la famille de Dieu seront en charge de l'enseignement. Outre Jésus-Christ et Dieu le Père, cette famille se composera de tous les fils et filles nés de Dieu à ce moment-là, qui sont en ce moment entraînés à devenir les enseignants du monde à venir. La Bible indique que, dans l'ancienne nation d'Israël, les sacrificateurs étaient les enseignants de cette société. Et la Bible révèle que les vrais chrétiens actuels sont appelés à être des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants, des éducateurs, dans le monde à venir. C'est très inspirant et encourageant. À la page 26 de cette brochure, vous avez une section qui s'appelle « La vraie éducation commence à la maison », page 28, « Le respect envers les enseignants ». Alors, je vous encourage, durant la fête, à lire les brochures et les articles de l'Église concernant le monde à venir et comment ce sera. Les sacrificateurs non seulement enseignent, mais aussi ils intercèdent. Ils prient pour les autres. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur et il intercède pour nous. Il prie son Père pour nous. Allons maintenant à Hébreux chapitre 7, s'il vous plaît, et le verset 25. Et c'est un verset tellement inspirant et tellement réconfortant. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous connaît, qui vous aime personnellement. Il plaide votre cause, pour ainsi dire, auprès de Dieu. Il intercède pour vous et pour moi. Verset 25 d'Hébreux 7. Hébreux 7 et le verset 25. Verset 26, il est souverain sacrificateur, sans tâche. Jésus vit pour intercéder pour nous, toujours. Allons à Hébreux 4 maintenant, le chapitre 14. Ça parle du rôle du Christ en tant que notre souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4 et le verset 14 ici. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il sait ce que c'est que souffrir. Il a été dans nos souliers, pour ainsi dire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il sait ce par quoi nous passons. Il est tenté comme nous. Il sait ce que c'est que d'être faible. Il sait ce que c'est que de souffrir physiquement, que d'éprouver de la douleur. Il a été flagellé, il a été frappé, on a craché sur lui. Sa chair a été déchirée avant qu'il soit crucifié. Il sait ce que c'est que de vivre dans la chair humaine et de rencontrer toutes les tentations que nous rencontrons. Et il a combattu ça, il a vaincu. Et c'est lui qui peut vivre sa vie en nous. Supplions-le de le faire. Il intercède pour nous, comme on voit dans Hébreux 7. Voyons maintenant notre rôle. Allons dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous devons actuellement apprendre à faire des prières d'intercession en tant que sacrificateur à l'entraînement. 1 Timothée 2, verset 1. Je t'exhorte donc avant toute chose, Timothée, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Peut-être que le président de votre pays ou votre roi ou votre gouverneur ne vous plaît pas ou que ses façons de faire ne vous plaisent pas, mais écoutez, Dieu dit, il vous faut prier pour lui ou pour elle, pour que nous menions une vie paisible et que nous puissions accomplir l'œuvre. Il nous faut prier pour les dirigeants des pays. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai eu un conflit avec un collègue étudiant et je trouvais que cet homme-là était détestable. Je trouvais qu'il n'était pas vraiment un vrai chrétien dans sa conduite et dans sa façon de communiquer avec les autres. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa Bible? Il dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent ou qui vous persécutent ». Voilà l'amour inconditionnel de Matthieu 5, versets 44 à 48. Et vous savez une chose? J'ai commencé à appliquer cette loi-là, ce principe-là, et plus j'ai prié pour cet individu-là, Dieu m'a donné une paix d'esprit. Je n'avais plus cette tension que je vivais avant. Et vous savez, une chose, Le Christ a prié pour nous, même lorsque nous étions des pécheurs. Le Christ a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il nous faut prier, il nous faut intercéder pour tous les hommes, comme c'est marqué ici. 1 Timothée 2 et le verset 2, « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité ou en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, la personne pour laquelle vous priez un jour connaîtra la vérité. Et Dieu va se manifester un jour envers cette personne et va l'appeler. L'individu connaîtra que vous vous êtes soucié de lui à ce moment-là. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En priant pour les autres, nous démontrons que nous avons de la compassion pour eux. Et il nous faut les comprendre. Et il nous faut saisir par quelle souffrance ces gens-là passent aussi. 1 Corinthiens chapitre 12 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 25, ça nous est dit qu'il faut avoir compassion, nous soucier pour les frères et les sœurs dans l'Église. Il nous faut les comprendre, saisir ce par quoi ils passent. 1 Corinthiens 12, et nous allons commencer à lire au verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. » Voyez-vous, avoir soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Nous devons avoir compassion pour les souffrances d'un autre, ressentir un peu ce qu'il ressent. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si quelqu'un est béni, il ne faut pas être jaloux de lui ou d'elle. Il faut se réjouir avec lui ou avec elle. Vous êtes le corps de Christ, verset 27, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, quand un membre de l'Église souffre, est-ce que vous avez cette compassion pour lui? Il faut que ce soit ainsi. Il faut développer cette compassion. Dans Deutéronome, le chapitre 9, Dieu a dit à Moïse, « Recule-toi, je vais détruire la nation d'Israël. Ils ont le cou raide. Je vais les détruire et je vais faire de toi une grande nation. » Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a intercédé. Il a intercédé pour cette nation. Il a dit au verset 18, il a dit, « Je me suis prosterné devant Dieu et j'ai jeûné à cause de tous les péchés d'Israël. » Deutéronome veut dire le rappel de la loi. Alors Moïse dit, j'ai été effrayé à la vue de la colère et de la fureur de l'Éternel, verset 19. Et il dit, l'Éternel voulait vous détruire, mais l'Éternel m'exauça. Encore une fois, voyez-vous, Moïse est intervenu auprès de Dieu, verset 20. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr. Et pour qui j'ai intercédé encore dans ce temps-là? Oui, il nous faut prier pour les autres. Dans ce cas, même si Dieu avait dit à Moïse, « Je vais faire de toi une grande nation et je vais détruire la nation », Moïse a plaidé auprès de Dieu et il a dit, « Il ne faut pas que les gens disent autour que tu n'avais pas la puissance d'amener ton peuple à travers ces épreuves. » Il a prié et il a intercédé pour Israël et Dieu a répondu, a préservé Israël. Bien sûr, ils ont payé le prix de leur faute avec le temps parce qu'ils n'ont pas vraiment changé. Dans Genèse chapitre 18, vous voyez une autre prière d'intercession aussi. Vous vous rappelez, le Christ et des anges sont apparus à Abraham à ce moment-là, et les anges étaient en route pour aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, et le verset 17, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une grande nation et une puissante nation, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Abraham est décrit comme le père des croyants, comme on voit dans Romains chapitre 4. Il est le père des croyants. Alors, on voit qu'Abraham va avoir un poste élevé dans le royaume de Dieu. Et on voit par la suite que ces deux hommes-là, les anges, se sont éloignés. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel, s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Verset 24, « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Et après, Abraham amène d'autres arguments auprès de Dieu pour qu'il change d'avis, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Autrement dit, Dieu, ce n'est pas selon ta façon d'être, ce n'est pas selon ce que tu es. Alors peut-être qu'on pourrait penser que du feu aurait descendu du ciel pour frapper Abraham à ce moment-là. Non, Dieu est patient. Dieu voit l'attitude et les motifs d'Abraham. Dieu a répondu, il a dit, « Non, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. » Et Abraham a continué à négocier en disant, « S'il y a 20 justes et s'il y a 10 justes. » Et on voit au verset 32, Dieu a dit que même s'il n'y avait que 10 justes, il ne la détruirait pas. Mais comme il n'y en avait pas, l'Éternel a détruit la ville. Mais on voit que Moïse a intercédé et on voit que Moïse a intercédé pour d'autres aussi. Et dans le royaume, nous allons nous identifier aux souffrances de ceux qui vont venir de la grande tribulation en tant qu'êtres humains physiques. Ils vont revenir à la terre promise au Moyen-Orient. Voyons un peu plus concernant notre rôle dans cette période de transition pour les gens qui vont revenir de la grande détresse. Allons dans Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 11, c'est un des chapitres merveilleux dans la Bible et ça décrit le monde à venir, ce monde millénaire merveilleux. Et il faut que vous connaissiez les chapitres qui parlent de ce millénaire qui vient. Ésaïe 2, Ésaïe 11, Ésaïe 35, Ézéchiel 34, Ézéchiel 36, Michée le quatrième chapitre et Zacharie chapitre 14. Vous devez savoir où sont les chapitres qui parle du monde à venir et qui le décrivent. Notez-le au cours de la fête. Ésaïe, chapitre 11, maintenant. Ésaïe, chapitre 11, et nous allons commencer à lire au verset 11. Il y a une description ici du deuxième exode, c'est-à-dire de ceux qui auront été dans la grande détresse, qui auront été emmenés en captivité un peu partout à travers le monde et qui vont être libérés de là et qui vont être ramenés vers Jérusalem et à qui on enseignera une nouvelle façon de vivre. Verset 11, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront encore vivants et qui seront dispersés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il les recueillera. Il recueillera les dispersés de Juda, d'où des quatre extrémités de la terre. Voilà ce qui va arriver au commencement du millénaire. Il y aura une réconciliation des nations à ce moment-là. On voit ici, au verset 16, la réconciliation de trois nations majeures. Il y aura, verset 16, une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Et bien sûr, j'ai référé à Ésaïe 19, au verset... On va revenir à Ésaïe 11, mais allons à Ésaïe 19 maintenant et le verset 24. Et regardez ce qui est dit ici. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Et regardez bien le verset 25, comment c'est beau. Ça décrit ce qui va venir à ce moment-là. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'Allemagne, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ces trois grandes nations appartiendront à Dieu au début du millénaire. Revenons maintenant au deuxième exode, dans Ésaïe 11, et on sait que les captifs à travers le monde vont être libérés et vont être ramenés à la terre promise. Et voyez ce qui est dit au verset 6 d'Ésaïe 11. verset 6, « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Quelle vision glorieuse du merveilleux monde à venir! » Le prophète Ésaïe le décrit. Et bien sûr, le lion mangera de la paille comme les bovins. Et ça nous rappelle la petite vidéo qu'on a vue, Christian, le lion. Il pourrait y avoir de la camaraderie et des jeux avec les différents animaux de la part des humains. Jérémie, chapitre 16 maintenant. Jérémie, chapitre 16. Il y aura une période de transition après le retour de Christ pour établir le gouvernement de Dieu. On voit qu'au début du millénaire, l'Égypte ne se présentera pas pour observer la fête des tabernacles à Jérusalem, et Dieu va les punir pour attirer leur attention, et il ne pleuvra pas sur leur pays l'année suivante. Alors, Jérémie, chapitre 16, maintenant, on voit qu'il y aura une période de transition, et on voit ici dans Jérémie 16 que Dieu va envoyer des pêcheurs et des chasseurs pour aller chercher et trouver ceux qui se seront cachés à ce moment-là. Verset 14 et verset 18. « C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. » Alors Dieu va ramener les descendants modernes des nations d'Israël qui auront été en captivité, va les ramener vers Jérusalem. Et regardez verset 16. « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, ils ne sont pas cachés devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage de cadavres, de leurs idoles et de leurs abominations. Dieu ensuite va leur montrer beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, et va les ramener à la terre promise. » Et le verset 19, « L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations gentilles aussi, non israélites, viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères nous ont montré le mensonge, et ainsi de suite. » Il y aura une fin de la captivité à ce moment-là. Allons à Ézéchiel 36 maintenant. Nous allons être capables d'enseigner les gens à ce moment-là, de les rééduquer, de les encourager, de les consoler, de les guérir. Ézéchiel, chapitre 36, nous allons lire à partir du verset 24. On sait que David sera roi sur Israël à ce moment-là, au-dessus des 12 apôtres qui seront en charge de chacune des tribus. Alors, Ézéchiel 36, le verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Nous sommes les pionniers de cette nouvelle façon de vivre, nous qui sommes appelés maintenant. Nous nous sommes repentis, nous nous repentons, et par l'Esprit de Dieu, nous travaillons à changer complètement. Jean-Baptiste avait enjoint les gens de se repentir, et le Christ a prêché la repentance. Et Dieu nous donne maintenant un nouveau cœur et un nouvel esprit pour que nous vivions de façon différente. Et il va faire la même chose avec ceux qu'il va ramener de la captivité à ce moment-là. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » À quel point seront-ils repentants? Voyez le verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Voilà le repentir qu'ils auront à ce moment-là à cause de vos iniquités et de vos abominations. Il y aura une restauration non seulement du cœur et de l'esprit des gens, mais il y aura une restauration de la terre aussi. Nous avons pollué la terre, l'air, les eaux. Et regardez au verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Voyez-vous? Il y aura des projets de reconstruction extraordinaires autour du globe. Les villes seront rebâties. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées maintenant et habitées. Quel changement! Et le verset 38, « Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant les fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Quel temps merveilleux ce sera! Il nous faut en rêver, et j'encourage tous, et j'encourage régulièrement les jeunes lorsque je vais au camp d'été, je les encourage à rêver du monde à venir. Je leur dis même, rêvez de quelle maison vous aimeriez avoir, parce que les villes seront reconstruites et vous allez pouvoir vous bâtir de belles maisons. Lors d'un camp d'été, j'avais encouragé les jeunes à même dessiner leur maison de rêve. Et un campeur à ce moment-là, il avait 14 ans, je pense, m'a dessiné cette maison. C'est sa maison de rêve. C'est une maison à double structure, avec chacune un haut pignon, un toit cathédral très élevé, comme deux maisons côte à côte, et il y a une chute qui coule entre les deux maisons. Il y a un étang dans la salle à manger et il y a une bibliothèque où il y a beaucoup d'oiseaux, des choses superbes dans cette maison à double structure. Et entre les doubles structures, il y a un pont suspendu qui joint les deux structures. C'est superbe, c'est merveilleux. Et à l'arrière du dessin, il y a un autre dessin, un plan d'un des premiers planchers de cette maison. C'est formidable. Faites-le. On peut le faire. On peut rêver à ces choses-là parce que ces choses-là vont arriver et on pourra goûter les belles choses que Dieu va nous permettre de faire. Et la chose la plus merveilleuse, ce sera la venue de la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel et qui sera établie sur la terre. Alors les villes vont être rebâties. Et le jour des expiations, on a célébré le jour où la liberté sera proclamée aux captifs. Voyons-le rapidement dans Lévitique 25. Lévitique 25, à partir du verset 8. Lévitique 25 et le verset 8. La fête des expiations représente le moment où Satan sera lié avec ses démons et empêché de nuire, où les gens pourront devenir un avec Dieu et où la liberté sera proclamée. Quelque chose de merveilleux va se passer à ce moment-là. Il y a un jour où ceux qui seront en captivité à ce moment-là vont comprendre qu'ils sont libérés de leur captivité. Alors, lisons à partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. Il parle de l'année du jubilé ici. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour de ce 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Écoutez bien ce qui est dit ici. C'est une déclaration qu'on voit écrite sur la cloche de la liberté dans la ville de Philadelphie aux États-Unis et on retrouve cette déclaration-là sur un des timbres des États-Unis en référence avec ce passage de Lévitique 25, verset 10. « Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. » Quelle annonce merveilleuse! Ça nous encourage, ça nous réconforte. Et le jour des expiations, tout juste avant le début du millénaire, cette proclamation sera faite, cette proclamation de la liberté. La proclamation de la liberté pour les captifs, ce sera jubilé. Ce sera une année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alors, nous avons vu notre appel en tant que roi. Nous devons avoir de la compassion. Nous allons enseigner les nations et nous devons être maintenant la lumière du monde dans notre façon de vivre et nous devons maintenant apprendre à intercéder pour les autres et nous allons le faire dans le monde à venir aussi. Voyons maintenant une autre responsabilité que nous allons avoir. Comme j'ai mentionné dans le titre du sermon, nous sommes appelés à devenir des rois et des sacrificateurs. Mais nous aurons la troisième responsabilité, celle d'être des juges. Allons dans 1 Corinthiens 1 et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 26. Nous savons que Dieu n'a pas appelé les gens importants du monde. Nous voyons au verset 26, Dieu le précise ici. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez votre appel? Nous sommes appelés à être des serviteurs, des rois, des éducateurs et des juges dans le monde à venir. Mais Dieu, verset 27, a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Si Dieu peut nous utiliser en tant qu'être humain faible, parfois avec très peu d'éducation, sans grande noblesse. Mais voyez-vous, nous sommes appelés à changer, à croître dans la compréhension spirituelle. Nous sommes appelés à croître dans la connaissance des lois de Dieu et dans le développement du caractère divin. Et ça donne une sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La vraie sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est de vivre selon ses voies, selon qui est marqué dans Proverbe 9, verset 10 et Proverbe 1, verset 7, Dieu nous donne ce don de sorte que nous puissions devenir des juges et que nous puissions servir de façon efficace parce que Dieu a appelé les faibles du monde, nous. Et ça me rappelle une histoire qui a été rapportée il y a quelques années. Dieu a appelé de petites gens. Il a appelé des gens simples, ordinaires, pour comprendre son plan. En décembre 1863, et je cite, « Ce soir, le président Abraham Lincoln a eu un rêve. Il était au milieu d'un groupe de gens simples et ordinaires, et à mesure que les gens l'ont reconnu, ils ont commencé à émettre des commentaires sur son apparence. L'un d'eux dit, « C'est un homme qui a l'air très ordinaire. » Le président Lincoln répondit, « Le Seigneur préfère les gens ordinaires. D'ailleurs, il en a créé un très grand nombre. » Et dans 1 Corinthiens 1, verset 26, dans la version anglaise NIV, il est dit, « Frères, rappelez-vous que Dieu vous a appelé, mais que vous étiez peu sages selon les standards humains. Peu de vous avaient de l'influence et peu de vous étiez de naissance noble. » Je ne m'y rapporterai pas, mais Luc 10, verset 21, il est écrit, la prière du Christ qui dit à son Père, « Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants, aux tout-petits, aux gens simples, humbles, ordinaires. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. » Dieu n'a pas révélé ces choses aux puissants du monde et aux grands du monde. Il les a révélées aux gens humbles et aux gens simples, aux petits du monde. Alors, notre appel est vraiment grandiose. 1 Corinthiens chapitre 6, maintenant 1 Corinthiens chapitre 6. Vous devez connaître ce passage comme il faut. Dr. Meredith le cite souvent. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Nous devons déjà être capables de juger, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et il continue en disant, « Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Comment apprenons-nous à juger? Allons dans 1 Corinthiens 11 et le verset 31. 1 Corinthiens 11 et le verset 31. Ça nous explique davantage. 1 Corinthiens 11 et le verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, il nous faut être prudents dans notre jugement envers les autres. Il nous faut d'abord nous juger, nous examiner nous-mêmes. Le Christ a bien expliqué qu'il faut enlever les poutres de nos yeux avant de regarder la paille dans l'œil du voisin. Nous sommes appelés à devenir des rois, des sacrificateurs et des juges, et il nous faut nous préparer, nous éduquer en ce sens. Et quel est le fondement de ces jugements ou du discernement que nous devons avoir? Allons dans Psaume 119. Psaume 119. Nous avons parlé de ces choses-là aujourd'hui lors du dîner. Il y a certains de nos membres, certains membres de l'Église qui ne lisent pas la Bible suffisamment, qui ne connaissent pas les livres de la Bible, qui ne savent pas combien il y a de livres dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui ne connaissent pas les livres principaux de la Bible. Le Christ a pourtant dit dans Matthieu 4, 4 et Luc 4, 4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons l'étudier, l'approfondir, l'apprendre. Il faut connaître ce qu'il y a dans la Bible. Nous devons apprendre à faire des jugements, à juger, à examiner, à discerner. Et comment pouvons-nous faire ça? C'est en étudiant la parole de Dieu. Psaume 119 et le verset 97. « Combien j'aime ta loi, c'est ce que David disait, elle est toujours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Et nos adolescents dans l'Église ont plus de compréhension spirituelle que leurs professeurs de mathématiques ou de sciences. Pourquoi? Parce qu'ils étudient la Bible et qu'ils y réfléchissent. Verset 100, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Plus d'intelligence que Socrate et les grands philosophes. Pourquoi? Parce que je connais la loi de Dieu et que je l'approfondis et que j'en vis. Verset 101, « Retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois. » Verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais la voie du mensonge. » Nous apprenons à discerner le bien du mal en méditant les lois de Dieu, en méditant les lois de Dieu et en les appliquant dans nos vies. Voilà comment nous allons apprendre à juger ou à administrer, non pas à condamner les autres, comme c'est marqué dans Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas pour ne pas être jugé, parce que la mesure que vous utilisez pour mesurer les autres sera utilisée contre vous. Non, nous devons apprendre à discerner. Nous devons d'abord nous juger nous-mêmes, et nous devons être capables d'évaluer, nous devons être capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vous invite, au cours de la fête, à lire la copie du Living Church News de septembre-octobre 2009. Voici certains des articles qui sont écrits dans cette édition de septembre-octobre de cette année. Page 3, « Êtes-vous prêt à régner? » Et c'est ce à quoi nous devons penser au cours de la fête. « La modestie en tant que préparation au leadership. » Voilà un autre article de cette revue. Et ça nous montre comment sortir de ce monde maintenant pour être capable d'enseigner dans le monde à venir. Page 10, « Ambassadeur du royaume. » 17, « Une saison d'espoir et de gloire. » Et c'est ce que nous vivons présentement. Alors, je vous encourage au cours de la fête, ceux qui vous pouvez lire l'anglais, à lire ces articles-là. Ou vous qui lisez le français seulement, à lire des articles qui se rapportent à nos responsabilités présentes de développer le caractère de Dieu et comment l'appliquer dans le monde à venir pour devenir des rois, des sacrificateurs, des éducateurs et des juges. Nous connaissons les quatre éléments qui forme un royaume. Les gens disent « Le royaume de Dieu est dans notre cœur ». Ce n'est pas exact. Vous savez, lorsque le Christ a dit « Le royaume de Dieu est parmi vous », il voulait dire le roi de ce royaume est là. C'est lui, le Christ, le roi de ce royaume. Et il était parmi eux. Et c'est pour ça qu'il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais le royaume de Dieu, c'est la famille royale, avec le Christ comme roi des rois. Et sous lui, ceux qu'on a vus et les serviteurs qui seront fidèles d'ici là. Le Christ va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et un royaume comprend un roi, ce sera le Christ. Et il y aura un territoire, la terre, comme on voit dans Matthieu 5, verset 5, les humbles hériteront de la terre. Et les sujets seront les nations de la terre à ce moment-là, comme on voit dans Zacharie 14. Et ces nations-là vont observer la fête des tabernacles. Et il y aura les lois de Dieu qui seront enseignées. Allons à Michée chapitre 4 maintenant. Michée 4 maintenant et le verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Oui, le Christ sera sur la terre, comme nous avons vu. Nous avons vu dans le dernier verset du livre d'Ézéchiel, « La ville de Jérusalem portera aussi le nom de Yahweh Shammah. L'Éternel est ici. » Le Christ sera là en personne et nous serons des rois et des éducateurs et des juges sous lui. Verset 3. Il, le Christ, sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. La façon d'arrêter la guerre, c'est par le gouvernement de Dieu et c'est par la rééducation de l'humanité. Il y a plusieurs années, M. Armstrong a reçu une récompense, un cadeau du roi Léopold de Belgique. Il y avait quatre montres qui ont été données à des individus qui ont le plus contribué à la paix mondiale. Et j'ai ici le document que nous avons publié, la Fondation Ambassadeur, intitulé « Ambassadeur pour la paix mondiale ». Ça décrit cette montre et cette cérémonie où M. Armstrong a reçu cette montre en tant que contributeur à la paix mondiale. Et voici comment M. Armstrong a répondu à cet honneur qui lui a été fait, et je lis à partir de la page 4. « En 1970, Sa Majesté Léopold III a présenté la quatrième montre à Herbert Armstrong. En recevant ce cadeau, M. Armstrong a déclaré, et je cite, « Je considère qu'il s'agit là de l'honneur le plus grand que le roi puisse faire à quelqu'un. Quelle que soit ma contribution à la paix mondiale, ce n'est pas par la guerre, mais par l'éducation que la paix peut venir. » En enseignant mondialement les voies qui mènent à la paix véritable. Fin de la citation. Alors, cette éducation sera appliquée dans le monde à venir. Nous devons apprendre à être des pacificateurs maintenant et nous allons enseigner les voies de la paix. Le Christ est le prince de la paix, comme c'est marqué dans Ésaïe. Nous attendons cette époque merveilleuse alors que le royaume sera établi. Il y aura un roi, le Christ, avec des petits rois sous lui. Et il y aura un territoire, la terre, des sujets, les êtres humains. Les lois de Dieu seront enseignées. Et c'est là le quatrième élément de tout royaume, les lois. Quelles seront les lois qui seront enseignées à ce moment-là? Les 10 commandements, comme on vient voir dans le livre de Michée, les gens vont vouloir apprendre les lois de Dieu à ce moment-là. Et on voit dans Michée 4 et le verset 2, ils diront, montons à la maison de l'Éternel afin qu'il nous enseigne ses lois. Et il est écrit, car de Sion sortiront la loi. Comme on a vu, Dieu écrira ses lois dans le cœur et dans l'esprit des gens. Et nous sommes les pionniers de ce monde nouveau qui s'en vient. C'est la nouvelle alliance. Nous faisons partie de cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là sera étendue aux nations israélites modernes. Après le retour de Christ, et ça s'étendra aussi aux autres nations du monde. Et Dieu va remplacer le cœur de pierre des êtres humains par un cœur de chair et va leur accorder son Saint-Esprit. Et le monde sera transformé et le monde connaîtra la paix. Allons maintenant à Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 35. Nous allons voir ici à partir du verset 1. Ça décrit la transformation de la terre qui aura lieu. L'environnement redeviendra sain et productif. La pollution disparaîtra. Ésaïe, chapitre 35, et nous allons lire à partir du verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Quelle belle image! Une terre productive. La terre deviendra fertile et productive. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Et Dieu va commencer des campagnes massives de guérison. Verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Le mirage se changera en étang et la terre dessécherait en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Quelle merveilleuse époque ce sera! Et il est dit au verset 10, « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion. Avec chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. » Allons à Philippiens, le chapitre 3, pour terminer, s'il vous plaît. Philippiens, le chapitre 3. En ce premier jour de la fête des tabernacles, réjouissons-nous de l'occasion merveilleuse qui nous est donnée d'adorer notre grand Dieu. Remercions-le de tous les dons qu'il nous donne, et en particulier de nous avoir donné ces fêtes, et en particulier la fête des tabernacles qui représente ce merveilleux monde à venir, la libération de l'humanité. Remercions Dieu de nous donner de comprendre son grand plan de salut. Le monde ne le comprend pas pour l'instant, mais Dieu a ouvert notre esprit à nous et il nous appelle à devenir des rois, des sacrificateurs et des juges dans le monde à venir. Nous deviendrons ses enfants, ses fils et ses filles. Il nous a appelés à devenir membres de sa famille royale. Quel appel grandiose! Alors, Philippiens 3 maintenant et le verset 12. Paul écrit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. » Et la fête des tabernacles nous donne cette vision de ce qui nous attend. Ça nous encourage. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous donc, tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est la famille de Dieu. Oui, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu céleste, de Dieu en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, courons vers ce but. Appliquons-nous à atteindre ce but. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice de tout notre cœur. Et envisageons ce temps à venir merveilleux où nous allons pouvoir servir l'humanité sous le Christ. Lui, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, rendons notre appel certain, fortifions-nous dans le Christ, que cette fête nous aide à croître spirituellement dans la grâce et dans la connaissance de Dieu, pour que nous soyons mieux équipés, mieux entraînés pour devenir des rois, des sacrificateurs et des juges dans le monde à venir. Attendons ce monde à venir qui est tout proche avec joie, avec enthousiasme, avec reconnaissance. Et attendons ce moment de grande bénédiction de la réalisation de notre appel pour que nous devenions des rois, des sacrificateurs et des juges.